dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général et surtout en particulier. Nous sommes le 2 janvier 2018. L'année n'est encore pleine que de sa promesse. Mais par contre, celle d'avant, 2017, nous a fait vivre plein de choses. Alors ce soir, au pied de notre sapin, je vous l'avoue un peu fatiguée, mon petit frère et moi, on a décidé de consacrer à cette année 2017 compliquée un moment de réflexion, de discussion, voire même de partage. En gros, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a changé, qu'est-ce qui nous a bouleversé en 2017 ? Marine, comme vous l'avez compris, ne peut pas se joindre à nous, mais c'est pas grave, à deux, on est bien assez bavard pour trois. Enfin, dans un acte désespéré, pour tenter de publier ce podcast pas trop tard, nous allons considérer que nous enrichons dans les conditions du direct, comme on dit, pour, en gros, que je n'ai pas à monter ce podcast et qu'on puisse le mettre en ligne tout de suite. Du coup, ne soyez pas étonnés de nous entendre tousser, se moucher ou s'engueuler, qui sait. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu veux dire bonjour à tout le monde, Thibaut ?
Bonjour et bonne année.
Ah voilà, une bonne idée. Bonne année, effectivement, commençons par là. Donc, tu te rappelles, l'année dernière, on a fait la même. On a décidé d'un peu changer le mode, parce que là, on est en tête-à-tête, toi et moi. Comme ça, on va pouvoir parler encore plus que d'habitude. Ce qui ne présage rien de bon pour nos auditeurs. On a décidé de faire, on va dire, un truc libre. Pas vraiment libre. Disons qu'on avait 5 slots, 5 trucs dont on avait le droit de parler chacun. Et on a commencé à réfléchir comment ça allait s'organiser avec, en gros, un chacun. Et puis, on a réalisé que c'était plus ou moins 4 thématiques et un truc libre. Donc, 4 catégories plutôt. Et donc, on va faire comme ça, en s'amusant à faire des transitions vachement intelligentes et qui fonctionnent bien pour faire genre qu'on parle toujours de la même chose alors qu'on change de sujet. Mais du coup, ça va être chapitré. Regardez les chapitres. Parce que même si on est dans les conditions du direct, je vais aller quand même mettre des chapitres. Comme ça, si vous voulez entendre une partie de la conversation en particulier, vous pouvez le faire. Mais je vous conseille de l'entendre en gros, en général, en entier. Parce que probablement, en plus, il va y avoir des running gags, des trucs. Voilà.
Et puis tout est intéressant.
Par contre, on va se rapprocher de Thibaut au niveau de l'enregistrement parce qu'il parle moins fort que moi. Attention, parce que là, c'est rare. Oui, vous voyez, dans les conditions directes. Et on va commencer par toi. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, en gros, on avait chacun un film, une série. Enfin, en fait, moi, personnellement, j'ai 8 films, mais j'en parle d'un en particulier pour parler des 7 autres. Donc, on avait cinéma, série, musique, bouquin et catégorie libre ou catégorie obsession mystère. Personnelle ou mystère, si tu veux, qui serait la dernière catégorie. Mais donc, on va faire ça comme ça, dans l'ordre. Donc, on va commencer par la catégorie cinéma. Et donc, tu vas commencer par parler de ton coup de cœur, coup de réflexion, bouleversement. Je ne sais pas, comment on dit, épiphanie en français.
On va commencer avec la partie la plus gaie du podcast.
Ouais, c'est ça, la partie la plus fun. Alors, donc, premier chapitre, chapitre 1, cinéma, le choix de Thibaut.
Donc, Get Out et Détroit, les deux vont ensemble, parce que ça traite un peu des mêmes thématiques, à savoir le racisme.
De façon très différente, faut voilà. Quand même le dire. Bien sûr, alors, je précise tout de suite, moi, je n'ai pas vu Détroit. Dans les deux cas, il y a des fins particulières. Donc, si vous pouvez parler des deux films safe, de façon safe, un petit peu, et ensuite, on va dire spoiler! Et tu pourras parler de la fin et tu pourras me spoiler sur Detroit. Tu peux nous dire déjà c'est qui, si tu l'as en tête? Enfin, moi je les connais, hein, les réalisateurs. Donc, Get Out, c'est un film qui est sorti au début de l'année de Jordan Peele, oui. Que vous connaissez de Key & Peele, c'est si Mickey. Vous connaissez. sauf que c'est écrit avec 2 E, mais bon, pas façon. Et Detroit, c'est un film de Kathryn Bigelow, qui avait fait Zero Dark Thirty, qui avait fait The Hurt Locker, qui est la seule femme de l'histoire à avoir gagné un Oscar de meilleure réalisation. Parce que il n'y en a que 3 qui ont été nominées, hein, je te rassure, sur 70 ans d'histoire, mais c'est la seule à avoir gagné. Et en plus, la blague, c'est qu'elle a gagné contre James Cameron l'année où il a fait Avatar, et James Cameron, c'est son ex-mari. Ah, donc c'était... et donc, il y avait le côté... En plus, elle a gagné en face de son ex-mari. Ce qui est bon, whatever. Mais bon, donc, Catherine Bigelow, moi, en plus, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Je n'ai pas eu le courage d'aller voir Detroit à cause de son sujet. Pour ceux qui l'ont vu, pas vu, un des trucs du film, c'est que c'est avec John Boyega. Vas-y, maintenant, parle-nous de ces deux films et de ce qu'ils représentent pour toi. Et de pourquoi ils sont importants pour ton année 2017.
Alors, Get Out, c'est hyper important parce que, à la base, c'est quand même déjà un film indépendant. Donc beaucoup de gens, enfin moi en tout cas, même pour ma part, quand j'entendais les pubs, je misais pas beaucoup dessus. Et j'entendais la bande-annonce sur Skyrock quand j'écoutais la radio, j'étais juste là, ouais, bon, un film d'horreur de plus, whatever, enfin on s'en tape. Et du coup, en fait, quand j'étais à Paris, j'en ai beaucoup entendu parler en bien, où les gens disaient que c'était extraordinaire, le meilleur film de l'année, pas spécialement d'horreur au final, que c'était pas vraiment un film d'horreur, mais qu'il y avait quand même beaucoup de scènes très stressantes et très intéressantes. Et toi, tu l'avais vu, et du coup, tu m'as proposé d'aller de retourner le voir avec moi. Du coup, je suis allé avec toi.
je prends ton éducation culturelle.
Direct.
Quand on a fait tomber le téléphone, tout va bien. Donc, je prends ton éducation culturelle très au sérieux. Et effectivement, nous étions tous les deux à Paris. J'ai fait, as-tu envie d'aller voir Get Out? Parce que voilà, moi, pour le coup, j'en entendais parler depuis sa sortie aux États-Unis en festival. J'en entendais parler comme d'un truc hallucinant, quoi.
En plus, petit contexte personnel, c'est que en plus, avant d'aller voir Get Out, on a pris un café parce qu'on s'était engueulé par message genre une semaine avant. Et du coup, on avait dû mettre les choses au clair. Du coup, c'est vrai que genre pour aller se relaxer, Get Out, parfait. le sujet est hyper intéressant. Enfin, ça montre l'oppression.
J'essaie de décider où mettre le micro, donc les gens, s'ils entendent des variations de micro, vous étonnez pas.
Enfin, l'oppression pour les Noirs, enfin, et le fait que, enfin, pour moi, le fait qu'on essaye de les rendre blancs, entre guillemets, et c'est hyper intéressant, enfin, c'est très stressant, et puis tu te mets à sa place, et t'es là, ah, mais juste parce qu'il est noir. Mais
justement, je pense que les gens qui n'ont pas vu le film ne comprennent absolument pas comment ça marche.
C'est ça.
Et l'idée, c'est qu'on veut pas révéler pour spoiler. Donc, en gros, disons que ça ressemble à un film d'horreur classique, où les éléments d'angoisse et de stress, c'est en gros le racisme ordinaire.
Et puis l'aime, enfin...
Oui, mais c'est racisme ordinaire qui est terrifiant. En fait, t'es tout le temps mal à l'aise à cause du racisme ordinaire. Et c'est hyper drôle, c'est que pour les blancs, c'est Jordan Peele qui dit que pour les blancs, c'est un drame. Pour les noirs, c'est une comédie. Parce qu'ils sont morts de rire, j'ai lu à la fin. Et le truc, c'est que... Et la blague, c'est quand ils ont... Parce qu'ils sont nommés au Golden Globe pour meilleure comédie. Dans la catégorie comédie, parce qu'il y a deux catégories pour le cinéma, et là, quand il y a une controverse sur Twitter, genre, mais comment ça se fait que c'est dans la comédie? Et la réponse de Jordan Peele, c'était Get Out est un documentaire. Donc voilà, et c'est un truc très bien fait, très subtil à voir,
ouais.
Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'a pas compris le film,
oui,
en fait.
C'est un grand débat que j'ai eu avec plusieurs personnes, malheureusement, ça va être cliché française. Parce que, ou avec un ex-pot, où le mec me sortait, non, mais je comprends pas, Get Out, les gens ils adorent, mais en fait c'est nul. Comment ça c'est nul? Et moi je lui dis, bah moi pour moi c'est un des meilleurs films de l'année, donc c'était en septembre, donc j'avais pas, enfin il restait 3 mois, donc pour moi pour le moment c'est mon meilleur film de l'année, et je comprends pas comment tu peux dire que c'est nul. Il fait, ouais, mais c'est pas un film d'horreur. Oui, on a vu le même film, ou ça s'est passé comment dans ta... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est horrible, c'est... ce qui se passe.
Parce que c'est hyper anxiogène. Enfin, moi, je pense que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Enfin, moi, j'étais hyper mal à l'aise tout le long. D'habitude, je stresse pas spécialement dans les films d'horreur, mais là, j'étais vraiment stressé. Et je pense que c'est une des rares fois où je rigolais pas quand il se passait un truc hyper gore. Parce que je rigole beaucoup quand quelqu'un se fait tuer. Et du coup,
oui,
là...
c'est très perturbant d'aller au cinéma avec toi. Je confirme. T'écoutes autant.
Donc, du coup là j'en rigolais même pas, j'étais hyper nerveux enfin tout le long, et même la deuxième fois où je l'ai revu avec Marine en revenant à Berlin, même là j'étais là, ah, c'est, même en sachant ce qui se passe, t'as quand même le stress et tu te dis que même si c'est vulgarisé, on va dire, c'est des trucs que les gens enfin ils peuvent ressentir en fait. Et enfin c'est assez intéressant de montrer aussi que ça se passe avec la belle famille, et que je pense qu'il y a plein de noirs quand on veut voir leur belle famille qui est blanche, ça doit se passer un peu le film d'horreur dans leur
concept,
tête aussi.
Le truc dans un film d'horreur, il y a toujours un concept genre tu vis dans une maison hantée, tu vas dans, il y a un meurtrier. Là, le concept c'est tu es un homme noir et tu vas rencontre ta belle famille blanche. C'est ça le truc de base. Mais c'est rigolo, c'était l'actrice qui joue sa meuf. Elle disait que en gros les blancs essayait toujours d'expliquer son personnage différemment que ce que c'est dans le film. Je veux pas spoiler, mais en gros, et elle était toujours là, mais pourquoi est-ce que vous essayez de lui trouver des excuses? Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que vous... Et c'est tellement... ils arrivent pas à accepter ce truc-là.
Mais enfin, de toute manière, toute la famille est tarée.
Oui, enfin, mais c'est... elle, c'était l'actrice qui s'est
pas... Après, d'un sens, j'ai envie de dire ce qu'ils font, On peut trouver, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui ont dû être là, ah, mais c'est gratifiant ce qu'ils font, d'un sens, parce qu'en soi, ils reconnaissent.
Bah, en fait, c'est la parfaite métaphore de l'exploitation de l'art noir,
c'est ça,
par les Blancs.
Ouais, c'est ça. Je l'avais pas vu, oui, c'est ça.
C'est black gold, c'est vraiment ça.
Et puis,
cool d'être black, c'est cool de faire comme les blacks, mais par contre, on va pas leur donner leur. Enfin, que s'ils suivent les règles, quoi.
Enfin, le film est génial, les acteurs sont géniaux et surtout le personnage secondaire, le meilleur ami de
Rod,
il est génial. Tout le long, en fait, au début, moi j'étais là, ouais, ça va juste être un boulet, et en fait, il est génial. et puis c'est mon meilleur film de l'année parce que aussi c'est le seul film d'horreur qui m'a fait stresser comme ça, je pense, dans toute ma vie. Donc, et puis pour moi, en fait, c'est du vrai cinéma d'horreur. C'est un gros débat qu'on a souvent, toi et moi, sur les films. Pour moi, c'est vraiment un film d'horreur, quoi. C'est pas genre juste un film.
Mais c'est grave, parce que moi, c'est ce que j'ai dit, et c'est Léa qui m'a dit, mais non, c'est un film d'épouvante. Ok. Ok. Je savais pas qu'il y avait d'autres catégories.
C'est vraiment horrible ce qui se passe.
Oui, c'est clair. Et puis, il y a un milliard de. Enfin, moi, je serais heureuse un jour, si tu veux, qu'on le regarde ensemble en le commentant, quoi. Tu vois, vraiment en discutant de. Non, mais entre nous, tu vois, de dire genre, ok, alors tu vois là ce qu'il dit, machin, enfin, tu vois, parce qu'il y a énormément de symboles et énormément de trucs à dire. Mais alors, du coup, parle de Detroit, parce oui, que, enfin, pour que faire le lien entre les deux, pour nous expliquer
et
pourquoi
donc,
c'était.
Détroit, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'une tuerie dans un hôtel.
Donc, c'est pendant, je sais pas si tu sais ça, mais en gros, c'est pendant. Une émeute qui a duré pendant des jours, historique et légendaire.
Pendant le film, en fait, ils en parlent. C'est-à-dire qu'il y a. Le film, je crois, qui dure 2h30. Sur 2h30, t'as 1h qui parle de l'émeute. Après, il y a les personnages principaux, comment ils se retrouvent dans l'hôtel. Toute la scène de l'hôtel et une demi-heure sur la fin du film. Et... Waouh.
C'est une grosse claque dans la gueule sur les relations raciales, c'est ça ?
Ouais. Et puis surtout, ça montre... Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Mais il y a le personnage principal qui est John... Je sais pas si c'est vraiment le personnage principal en fait, mais un des personnages. Pour moi, il n'y a pas vraiment de personnage principal, il n'y a pas un principal, il y a des personnages principaux. Et John Boyega dedans, en fait, c'est un black qui est vigile de sécurité, qui travaille aussi dans une usine, qui fait des doubles shifts du coup, et qui se retrouve lui à être dans une épicerie ce soir-là, et qui lui essaie juste en fait de ne pas avoir de problème, qui essaie de protéger les blacks, mais du coup qui essaie aussi de faire copain avec l'armée pour ne pas avoir de problème, enfin, et les flics. Et du coup, donc, les flics le prennent, le considèrent entre guillemets comme un blanc, et les noirs aussi le considèrent comme un blanc, sauf que du coup, les flics le traitent comme un blanc, mais qui est quand même noir. Donc, du coup, ils le traitent comme une sous-merde quand même, et les blacks l'insultent parce que il fait copain-copain avec les flics alors qu'il ne devrait pas.
C'est un oncle Tom, comme on dit.
Voilà, c'est ce qu'ils lui disent dans le film.
Voilà. Et ben, tu sais d'où ça vient ? La case de l'oncle Tom.
Non.
Bon, je parlais de la case de l'oncle Tom, juste vrai. Et du coup, non, mais c'est le principe d'oncle Tom, mais c'est globe, moi, c'est un truc que j'ai appris, l'expression, je l'ai appris dans Buffy. Rien à voir avec la clochette, mais parce que c'est comme ça que Spike traite Angel, il le traite d'oncle Tom, parce que justement, c'est un vampire qui a trahi la cause parce qu'il sort avec une Slayer. Et j'ai pas compris la blague jusqu'à ce que je fasse le. Enfin, que tu comprennes que c'est un truc. C'est comme ça que Malcolm X traitait Martin Luther King d'oncle Tom. L'oncle Tom, c'est le vieux noir. Qui est le vieil esclave qui aime bien la famille blanche et que tout le monde aime bien parce qu'il est gentil.
Ah, comme dans Django.
Un peu. Non, mais dans Django, il a du pouvoir, alors que l'oncle Tom, en fait, c'est dans Huckleberry Finn. C'est dans le truc de Mark Twain qui a un oncle. La case. Mais non! Pas du tout, la case de l'oncle Tom, c'est pas du tout Mark Twain. C'est. En fait, le bouquin, La case de l'oncle Tom, est un roman qui est sorti juste après 12 Years a Slave. Mais sauf que Twelve Years a Slave a disparu de l'histoire après, et on a la case d'oncle Tom est restée, mais c'est une femme blanche qui l'a écrit, la case d'oncle Tom, si je ne m'abuse. Et c'est pour dire, oh, c'est l'histoire d'un gentil esclave que tout le monde aime bien. Okay. Et du coup, qui a une petite vie gentille, machin, mais du coup, il y a le côté, et quelque part, tout le monde l'aime bien parce qu'il dit pas du mal des blancs, il est gentil avec les blancs. Donc, c'est le vieil homme, le vieux sage que les enfants vont voir, ils vont jouer avec dans sa case. Et il appelle oncle Tom. Et donc, du coup, c'est l'idée des Noirs qui décident de ne pas faire de vagues et de faire ce qu'il faut pour faire le gentil auprès des Blancs pour se faire bien traiter. Mais qui, du coup, trahissent la cause. Et donc, c'est ça, un oncle Tom, c'est...
Enfin, du coup, il essaye, lui, de faire la jonction comme il peut pour essayer de protéger sa vie, protéger les blagues qu'il connaît. Mais en même temps, il essaye aussi de protéger les flics parce qu'il ne veut pas qu'ils se fassent assassiner. Et c'est hyper intéressant. Et y a un moment où, en gros, il se retrouve... Donc, il y a une tuerie dans un hôtel et ça t'explique, en fait, ce qui se passe. Et en plus, ça te montre tous les points de vue. C'est vraiment... C'est pas que sur un point de vue. C'est aussi intéressant de voir. Et en gros, t'as un flic dedans. D'ailleurs, le mec, il a, je sais plus dans quoi je l'avais vu, mais il a un rôle où, pareil,
il y a plein d'acteurs dans ce film.
Il est hyper raciste, le mec. Enfin, il a vraiment la gueule parfaite de l'enfoiré que t'as envie de baffer à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Et parce qu'il fait vraiment, genre, vraiment raciste, raciste. Oui. Pardon, il fait vraiment très raciste. Et
ah, maintenant, il y a Drew, le chat, qui est à côté du truc. Donc, si vous entendez ronronner pendant le podcast, ne soyez pas étonnés. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de la réal hein?
C'est-à-dire
bah, de la réalisation, de comment c'est fait.
Moi, j'aime bien. Je trouvais ça sympa. Enfin, c'était intéressant.
Sympa. Non, parce que c'est, je te dis, c'est une grande réalisatrice. C'est pour ça... Tu vois, je
veux dire, c'est rien qui m'a marqué, mais il n'y a rien qui m'a déplu non plus, en fait.
Tu fais beaucoup de bruit, Drew. c'est qui l'acteur que tu... Attends. Tu fais le connard ? Je regarde, chercher les blancs, parce que je me suis dit que c'était probablement oui. Un blanc.
Où est-ce qu'il est, cet abruti ?
Il y a que des blancs, il y a que des noirs ou des gens qui ont pas de photos.
C'est lui.
Oh oui !
Tu vois, il a vraiment une
ah,
tête.
Ah oui, il joue dans The Maze Runner.
Mais je sais plus dans quoi je l'ai
les
vu.
Les chroniques
mais
de Narnia.
Il visait un raciste, en tout cas, dans un truc dans lequel je l'ai vu. Ou sinon, quelqu'un lui ressemble beaucoup.
The Revenant.
Je sais pas, je l'ai pas vu.
Ah, moi non plus. Bon, bah écoute.
Enfin, bon, en tout cas, du coup...
Je vois tout à fait le mec dont tu parlais.
Ces deux films sont géniaux.
Géniaux.
Et en fait, des trois, je sais pas trop comment en parler sans spoiler. C'est...
En quoi est-ce que... Enfin, tu vois, comme je t'ai dit, les films, t'as les deux films dont t'avais envie de parler, c'est deux films sur l'expérience afro-américaine. Pas seulement l'expérience noire, l'expérience afro-américaine.
Bah, en fait, moi, déjà, il y a un truc qui me choque beaucoup, c'est le racisme dedans, puisque moi, c'est un truc... Moi, j'ai grandi, pour moi, le racisme, ça n'existait pas. Enfin, moi, je l'ai connu, j'ai commencé à me rendre compte quand j'ai commencé à quitter mon quartier, ou donc quand j'ai eu 12 ans, quand j'ai commencé, en fait, à aller en internat en Normandie. Mais pour moi, avant le racisme, j'en entendais parler, mais je ne l'avais pas vécu, je ne connaissais pas. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que
je précise pas parce que tu habitais dans un quartier tout blanc, mais au contraire, oui, parce que ça. Tu habitais dans un quartier où il y avait presque pas de blancs.
J'étais le seul blanc de l'immeuble quasiment, et j'étais le seul blanc dans l'école quasiment, et je traînais qu'avec des blacks. Et dans mon groupe, t'avais deux indiens, un chinois, un pakistanais, trois blacks, quatre bœufs, et j'étais le seul blanc. Et en fait, pour nous, on n'avait pas de différence, quoi. C'est pas parce que. Et donc, du coup, c'est vrai que voir ça, c'est hyper choquant quand on entend parler, mais que tu t'en rends pas compte, enfin, tu n'as pas d'expérience pour le vivre, parce que moi, la seule expérience que j'ai vécue de racisme, c'est quand j'étais justement en Normandie, et que comme j'étais parisien, les Normands, qu'ils étaient en majorité, ils nous tapaient pas dessus, mais ils nous insultaient parce qu'on était parisiens, et il y avait les gros clichés de, en gros, parce qu'on était des parisiens, on était des racailles, parce qu'on était des parisiens, on était cons, parce qu'on était des parisiens, on n'était pas polis, et que du coup, quand moi j'allais parler avec eux, c'était là, ah, mais en fait, toi, t'es pas comme les autres. En fait, comme l'oncle Sam, enfin l'oncle Tom. Et du coup, t'es juste là. Et puis, enfin, moi, je ne l'ai pas vécu comme une expérience traumatisante. J'étais juste là, oui, ils sont cons. Parce que moi, on ne me tapait pas dessus. Et on ne me retirait pas des droits parce que je n'étais pas comme eux. Donc, du coup, c'est vrai que voir ça, pour moi, ça me fait prendre conscience de ce que c'est. Parce que c'est un truc que moi, je ne comprends pas. Enfin, pour moi, c'est pas parce que quelqu'un est noir qu'il n'est pas pareil. Pour moi, on est exactement pareil. Enfin, je sais plus comment on dit, mais tu sais, les gens qui ne repèrent pas les couleurs, quoi. C'est comme l'actrice que tu m'avais montré qui expliquait la personne.
Colorblind.
Ouais, voilà. Moi, pour moi, il n'y a pas de différence.
Oui, Tiffany Haddish, qui avait la nana qui fait le recensement, qui est colorblind. Sauf que je ne sais pas si tu peux vraiment être colorblind sur les gens, mais je pense que c'est plus un sketch. Mais en fait, mais alors, c'est rigolo parce qu'en même temps, c'est un truc qui a vachement été reproché à des blancs, ça, aux États-Unis. De dire, oh, mais moi, je ne vois pas les couleurs. Parce que pour beaucoup de gens, ça sous-entend. Et pour le cas, je pense que c'est vrai beaucoup dans notre culture française. C'est une façon de dire, c'est pas du tout ce que tu es en train de dire, hein, mais c'est rigolo parce que c'est des mots qui sont mal vus. Parce que c'est une façon de dire, ben non, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de différence. Moi, non. Je vois pas la différence, donc il n'y a pas de différence.
Non, mais
après... Et surtout de réaliser, de pas réaliser le ce qu'on appelle que le implicit bias, donc c'est le fait qu'on internalise des tonnes de trucs. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non. la société t'a appris à voir les couleurs, même si toi, tu ne veux pas les voir. Et effectivement, d'avoir une éducation diverse et colorée peut enrayer ça parce que tu as une expérience de vie avec des gens de couleurs différentes. Mais si tu n'avais pas grandi là où tu as grandi, tout ce que tu avais vu, c'était la fiction.
Ouais. Mais...
t'aurais, même si tu voulais pas être raciste, tu aurais des attitudes et des réflexes racistes qui sont uniquement issus de, ben, de la société, quoi.
Enfin, mais en fait, du coup, par exemple, le truc, enfin, et donc un des trucs qui m'a choqué, en fait, c'est justement c'est de visualiser tous les problèmes qu'il y a et que justement tous les trucs que même moi je peux faire sans m'en rendre compte, en fait.
Mm-hmm.
Et c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, parce que pour moi, ça a été une prise de conscience. C'est pour ça que c'est mon film de l'année. Parce que moi, j'aime bien les trucs qui te marquent, en fait, vraiment. Et c'est vrai que du coup, au-delà du divertissement sur le moment, et du... enfin, d'ailleurs, des trois, c'est même. Enfin, c'est... pas vraiment, c'est pas
moi j'ai peur de le voir, ça a pas l'air horrible.
Si, c'est horrible. C'est très très horrible. Enfin, après, quand je pourrais spoiler, l'histoire est horrible. Enfin, les manières que les...
Ben, en fait, je crois qu'on va pas vraiment avoir le temps, donc je pense qu'on en reparlera peut-être.
Ce que les keufs font pour faire parler les mecs, en gros, il y a un moment en fait. Ce qui est l'élément déclencheur, c'est que en gros, il y a un mec qui se met à une fenêtre et qui tire avec un gun, mais en plus, un truc en plastique, c'est un jouet d'un truc d'acteur. Sauf que du coup, ils pensent que c'est un sniper qui veut les tuer. Donc du coup, t'as l'armée qui arrive, qui détruit l'hôtel, enfin, qui tire sur tout l'hôtel, qui blesse des gens, et après, il y a les keufs qui rentrent dans l'hôtel, ils voient le mec qui s'en va en courant, ils savent pas qui c'est, mais le mec, il lui tire dans le dos, du coup, le mec meurt. Et en fait, après, pour les interrogatoires, pour savoir qu'est-ce qui a tiré, ils prennent les mecs, ils les mettent dans une chambre à part, et ils font croire à tout le groupe, en fait, qu'ils vont le tuer, ils le foutent dans la chambre, ils tirent une balle à côté de sa tête, le mec est allongé, ils lui font « la prochaine, si tu fais un bruit, c'est pour de vrai ». Et c'est une manière pour le faire parler. En gros, après, quand il revient, du coup, le mec, il va avoir tellement peur, forcément, tu parles. Enfin, tu te dis, j'ai pas envie de me prendre une balle, tu vois, dans la tête. Et en fait, en gros, il y a un moment où ils font au nouveau, bah vas-y, fais-le, va le tuer. Et le mec, il fait, ok. Et il revient, et il fait, waouh, je pensais pas que je pouvais le faire. Et tu sais, genre, il fait, bah oui, non, mais de toute manière, c'est du jeu, tu l'as pas tué. Et là, tu comprends, en fait, ce qui s'est passé. Et tu vois le mec qui fait... hein,
mais attends, mais c'est l'armée. Attends, j'ai pas compris.
C'est les flics. En fait, t'as l'armée et les flics. Et à partir de là, de toute manière...
les gens de, ouais, de l'hôtel.
Et l'armée, à partir de là, en plus, dit... à partir de là, l'armée n'a pas été impliquée dans cette histoire. Nous avons jamais été sur ce terrain. Tout est votre responsabilité. Et se barre. Et l'armée se replie de l'endroit. Et donc après, du coup, ils font accuser...
Boyega.
Voilà.
Du meurtre.
Voilà. Enfin, des trois meurtres. Parce qu'il y a eu trois meurtres dans l'hôtel. Voilà. Et en gros, il les relâche à la fin en disant « t'as rien vu ». Et t'as un mec qui fait « bah si, là, il y a un mec qui est mort par terre ». Et il fait, il sort son flingue, il lui met sur la tête et il fait « est-ce que tu vois quelque chose ?» Et il fait « oui, il y a un cadavre ». Et là, il se prend une balle. Et t'es là « ok ».
Boyega ?
Non.
Quelqu'un d'autre.
Voilà. Et bien et celui qui tue tout le monde, bien évidemment, enfin, qui en tue deux, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que t'es là, ok. Et puis pendant tout le jugement, le mec, t'as envie de les trucs qu'il dit, t'es là, ah, comment tu peux dire ça? Il était là, oui, mais ils sont noirs, vous comprenez, je me suis senti directement en danger, et t'es là, ah. Donc voilà, et donc du coup, enfin, grosse prise de conscience, claque énorme, et c'était vraiment une expérience incroyable, quoi. Enfin, et je trouve ça bien, en fait, qu'il y ait des films qui peuvent être réalisés comme ça, et je pense que si ça peut... Moi, je me dis que si j'ai pu avoir cette prise de conscience, je pense qu'il y a plein de gens dans le monde qui l'ont eu, et je pense que ça peut juste faire améliorer les choses. Et j'espère que ça va améliorer les choses. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon film préféré de l'année, Get Out, et Détroit n'en est pas loin aussi, donc voilà.
Bah écoute, moi j'ai très envie de voir Detroit, j'attends juste, voilà. Je te rassure, il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que c'était une femme blanche qui l'avait fait.
Haters gonna hate.
Haters gonna hate. Non, mais on n'est pas encore arrivé au stade où je vais parler de ça. Chapitre 1 bis, le cinéma de Yaël. Alors moi, c'est rigolo parce que tu parles de films faits par des réalisateurs indépendants. Moi, je vais parler des blockbusters. Je suis assez heureuse du fait que les blockbusters de cette année ont continué à me plaire dans leur prise de conscience politique, dans leur intelligence, dans leur façon de traiter les personnages féminins, dans leur façon de parler de la guerre, dans leur façon de parler de la violence, dans leur façon de parler de tout un tas de choses que je trouve vraiment importantes, et particulièrement importantes quand c'est justement des trucs qui vont être regardés dans le monde entier. Et on est très cynique vis-à-vis de ces films-là. Ça va surprendre personne qui écoute ce podcast, que moi, je ne le suis pas du tout. Moi, je suis très... Après, voilà, l'année dernière, exactement, il y a 366 jours, c'est-à-dire il y a un an, hier, nous avions vu un blockbuster épouvantable.
La pire manière de commencer l'année.
Nous avons vu Assassin's Creed, ce qui veut bien dire que tous les blockbusters ne sont pas géniaux, mais certains le sont, notamment les blockbusters produits par Disney, parce que j'ai adoré Star Wars, j'ai adoré les Marvel de cette année. Mais je vais commencer par parler de DC, parce que, en fait, mon film de l'année, je pense que mon film préféré de l'année, c'est Get Out, en toute honnêteté. Mais mon film de l'année, un des trucs importants cette année pour moi, c'est Wonder Woman. J'ai écrit un article où j'explique pourquoi, pour Clap. Je vais le repluguer comme je le fais à chaque fois. Et Wonder Woman, alors déjà, c'était un film bien fait, intelligent, bien écrit, voilà, divertissant, fun. Mais c'est aussi un film qui condamne la violence de la guerre, réellement. Qui condamne le manichéisme. Tu vois, elle croit qu'elle va tuer le dieu de la guerre et ça va tout régler. Et en fait, non. Parce qu'entre la guerre et la paix, bah, t'as l'humain, quoi. Et le fait que les conflits sont plus complexes.
Je trouve ça intéressant, ouais, qu'ils disent « Moi, je leur mets juste les idées dans la tête. »
Ouais.
L'humain est mauvais, fondamentalement. Enfin, après, j'aime pas le fait que c'est trop fataliste.
Sauf qu'il dit pas l'humain. Parce que, enfin, oui, c'est ce que lui, il dit. Justement, elle lui dit « Bah oui, si tu choisis de voir ça. » Sauf que si tu regardes... elle lui dit... Oui, si tu peux décider qu'ils sont mauvais comme ça, mais moi, je décide de croire en l'amour. Et si je crois en l'amour, bah, ça marche. Et en fait, c'est juste que t'as décidé d'être pessimiste, abruti.
En plus, c'est le meilleur film d'ici, quoi, qu'ils aient fait.
Ouais, c'est clair.
Ça, c'est...
Et c'est cool que Wonder Woman... Enfin, tu vois, il y avait le côté... Et surtout, il y a ce truc génial de ce personnage qui est incroyablement sensible... positif, naïf, voire et jamais, jamais faible en fait. Que en fait, ça déconstruit toutes tout ce qu'on a sur pour être fort, faut être dur, faut être, tu vois, sans. C'est très différent de cet autre. C'est pas un blockbuster, mais c'est un film d'action que j'ai adoré cette année, même si j'adore très différemment, qui est Atomic Blonde. Où pour le coup, Atomic Blonde, tu vois comment. Je sais que toi t'as pas aimé, parce que vous auriez dû voir la tête qu'il vient de faire quand j'ai dit le titre. Atomic Blonde, où t'es pour le coup sur une nana qui joue le jeu des hommes. Oui. Tu vois, qui est une espionne comme pourrait l'être un homme. C'est une femme quand même, on le sent du début à la fin.
Bah,
mais malgré tout. Oui, mais
elle utilise
les
sa morphologie, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ce qui est un des trucs que j'adore dans le film. Mais il y a aussi l'idée, qu'elle se laisse pas dépasser par ses émotions. Parce que quand tu fais ce métier, c'est un truc que je déteste dans les séries et dans les films. C'était un truc de Pacific Rim aussi. T'as l'impression que les personnages masculins, ils sont hyper, hyper sérieux. Et puis les nanas, par contre, elles, c'est trop dur parce qu'elles ont trop d'émotions. Alors que si tu fais ce genre de métier en tant que nana, bah, t'es juste appris à pas écouter tes émotions, quoi. Et là, Wonder Woman, parce que justement, c'est dans l'article, elle a pas du tout grand. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'un des partis pris de ce truc, c'est qu'est-ce que ça fait à une nana forte et indépendante de grandir dans un environnement où personne ne remet en question ta force, où personne ne te dit d'être une fille, c'est d'être faible, et où du coup, elle a... Non, mais c'est ça.
Mais tu m'étonnes, elle grandit avec les Amazones, quoi.
Oui, mais du coup, il n'y a pas l'idée « Ah, oh, si je trouve qu'un bébé, c'est mignon, ça veut dire qu'on ne va pas me prendre au sérieux. » Non, mais tu vois, c'est con, mais c'est hyper important. Le fait qu'elle dise « Oh, baby !»
Bon, juste la scène avec la glace.
Oui, c'est ça. Elle mange le glace, elle fait « Oh, c'est très, très bon, mais vous devriez être fiers de vous de faire des choses aussi.
Ouais. » Ouais,
et le truc, c'est que dans un autre truc, une nana comme moi, par exemple, tu vois, c'est rigolo, j'ai Astira, petit clin d'œil, elle a écrit un tweet hier en disant « Bon, je m'en fous d'être cucu. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont fait plaisir, qui m'ont fait sourire cette année sur Twitter. » Et du coup, je lui ai répondu un peu pour me moquer. Je lui dis « Mais qui est-ce qui t'a reproché d'être cucu? Dis-moi leur nom que je les tape. » Et là, elle fait « Ah non, non, mais c'était personne. C'était plus moi d'avant. » Tu vois, elle s'excuse de dire un truc sentimental. C'est fou quand même. Et en tant que nana, on fait ça beaucoup. Tu vois, on a l'impression que c'est un choix. Et ce film... mais explose tout le truc. Pareil sur le rapport à la sexualité, le rapport au romantisme, tout est libre en fait.
Mais
les questions qu'elle se pose sont des vraies questions, qui sont pas des questions de « Ah, est-ce qu'on va me prendre au sérieux ?» Là, c'est parce qu'on la prend tout le temps au sérieux. Même quand on la prend pas au sérieux, en fait, elle s'en fout, elle remarque même pas. Tu vois, parce qu'elle a rien, elle est juste là. Hein, quoi ?
Pourquoi ? Est-ce que je peux tenir mon bouclier, s'il te plaît ?
Non, puis il y a le côté quand elle arrive, tu sais, quand dans la phrase, ils veulent pas rentrer les femmes, mais elle est juste là. Quoi ? Pourquoi ? Et puis à moi, elle dit « Oui, mais c'est à moitié en sumérien et en ottoman. » Et tout le monde se fait « Ah, mais vous savez parler ça ?» Elle fait « Oui, enfin, je suis sûre que vous aussi. » Et tout le monde dit « Bon, faites-la sortir. » Et là, non, mais si elle parle les langues, c'est peut-être mieux qu'elle reste. Ah oui, d'accord. Et tu vois, et du coup, elle lit le truc, et puis elle les voit réagir, elle fait, vous devriez avoir honte. Mais comment? Et quand elle se barre, c'est vraiment génial, où du coup, lui, il lui dit, mais ça sert à rien de discuter avec eux, on va y aller quand même. Et elle fait, oh, tu as menti. C'est genre, you were lying. C'est vachement, c'est hyper rafraîchissant, quoi.
Mais tu vois, juste pour revenir sur un débat qu'on a eu par rapport à Paddington, elle est naïve, mais naïve. Je sais pas, elle est naïve, mais ça me dérange pas.
Non mais
je la trouve pas.
Enfin... Reparlons, donc, chers auditeurs, mon petit frère a décidé qu'il aimait pas Paddington. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas comment c'est possible parce que Paddington.
Je trouve Paddington insupportable.
Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc si vous avez vu Paddington, aidez-moi. Il l'a vu une fois dans de mauvaises conditions, mais quand même, il l'a vu en anglais, donc je comprends pas comment c'est possible. On est sorti, on a vu Paddington 2 avec Marine, j'espère en parler dans un podcast. Mais c'était tellement un bain d'adorabilité. Mais juste, ça fait tellement chaud au cœur et c'est jamais. Je sais pas, j'adore. Bon, passons. Toujours est-il que oui, ce truc de Wonder Woman était vraiment génial. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans les... Je suis retournée voir Star Wars pour la troisième fois, donc je participais à un podcast de 2h30, je fais des vidéos avec David, donc vous avez beaucoup de contenu Star Wars et je vais en reparler avec Marine. Mais donc j'aime beaucoup, beaucoup Star Wars 8 pour plein de raisons, je pourrais en parler pendant des heures aussi. Très, très différent du 7, je pense qu'on va peut-être refaire un podcast d'ailleurs avec les garçons sur le Star Wars. Donc Dominique et Sullivan, on verra. En tout cas... J'étais assise à côté de quelqu'un pour aller voir le troisième et je réalise que c'est quelqu'un qui a... C'est Christian, donc un mec qui s'appelle... C'est les Allemands, on prononce ça comme ça. Et qui est pas vrai, qui a pas vraiment... J'arrivais pas à savoir s'il a... Il se souvenait pas trop s'il avait vu le 7 ou pas. Du coup, j'ai essayé de lui dire, tu te rappelles d'un droïde blanc et orange en forme de boule? Ça te dit quelque chose? Il fait, je l'ai vu quelque part. J'étais là, ok. Parce que moi, je me suis dit, en même temps, il y a des pubs partout, donc ça veut rien dire. Et je lui ai dit... Et juste avant que le film commence, je lui ai dit... Un conseil, prends le film au sérieux. Je dis, si tu le prends au sérieux, ça peut être génial. Si tu le prends pas au sérieux, ça peut paraître débile. Et je pense que c'est vrai de tous les grands films comme ça, d'action, blockbuster. Et en fait, je lui ai dit, en fait, ils sont beaucoup plus complexes et il y a beaucoup plus de niveaux d'analyse qu'un film indé. Bon, pas Get Out, pour le coup, qui est très riche, mais beaucoup d'autres films sont vachement plus, finalement, un film indé, un film artistique et tout, va être parfois beaucoup plus direct. Tu vois, ça va être très clair ce qu'il y a dedans, alors que là, t'as plusieurs niveaux de lecture. T'as le côté divertissant, le côté symbolique, le côté métaphorique. Enfin, et je lui dis, c'est un peu, en fait, c'est de l'origami. C'est que c'est une forme qui a l'air simple, sauf qu'en fait, elle a demandé plein de travail compliqué. Et en fait, j'ai dit, ouais, c'est ça. Les blockbusters, c'est des œuvres d'origami. Tu veux dire un truc?
Oui, moi, juste pour revenir sur Wonder Woman, au-delà de ça, moi, le fantasme de la femme écervelée qui est dans la cuisine. Je sais plus, j'en peux plus. Mais en fait, je pense que, en plus, je pense que ma génération, les mecs avec qui j'ai parlé de Wonder Woman et qui l'ont vu, ils me font, ah ouais, moi, Wonder Woman, elle me fait vachement fantasmer, je sais pas pourquoi. Et il y a même un mec qui me fait, parce qu'en plus, Gal Gadot, moi, je la trouve pas spécialement charmante ou quoi. Il fait, mais le personnage Wonder Woman, et je dis, ah, en même temps, c'est une femme forte. Peut-être que du coup, le fait qu'elle ait du caractère, ça t'inspire plus que, je sais pas, une débile qui est là. Ma robe, elle est froissée. Et t'es là, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Et je trouve qu'en fait, on en arrive à qu'en fait, la femme avec du caractère, ça devient un fantasme.
Genre. Yeah!
Non, mais que. Enfin, je trouve ça triste en fait. Enfin, je trouve ça triste dans le sens où ça devrait
on
pas.
Qu'on en
arriver.
Soit pas déjà là.
Oui,
c'est ça.
Que
ça. Tu
enfin,
veux dire.
C'est pour moi, ça devrait être plus normal qu'un fantasme. Ça devrait être possible dans la vraie vie d'avoir
c'est,
ça.
C'est rigolo parce que t'es en train de faire presque une transition naturelle vers le prochain chapitre, mais oui. Je vais encore un truc à dire. C'est que j'ai adoré que Guardians of the Galaxy ait toute une lecture que Ego, le père de Star-Lord, c'est un peu une représentation du colonialisme. J'ai adoré que Spider-Man Homecoming traite Zendaya, l'actrice Zendaya est tellement, ce petit rôle est tellement génial, avec quand même la plus grande blague. Donc pour montrer que les Marvel se posent des questions sur le colonialisme. Donc on a Ego dans Guardians of the Galaxy. On a Zendaya qui dit à son prof, non mais en fait j'ai pas trop envie de visiter un monument construit par des esclaves. Et lui, bon, je suis sûre que c'est pas des esclaves qui ont construit ça. Et il se retourne vers le mec de la sécurité qui est un mec de couleur, qui fait et là il fait, ok, profite de ton bouquin. Donc c'est genre le petit message, attention,
il est génial, il a un petit rôle, mais tu sais à la fin quand ils reviennent du voyage scolaire et qu'il fait, Ah ouais, puis en plus, heureusement qu'on n'a pas perdu un élève, on n'aurait pas pu se permettre encore.
Mais Sakia, je le connais depuis hyper longtemps, il était dans une série qui s'appelait Party Down.
Ah, on en avait déjà parlé.
Mais en fait, on a parlé dans le fameux podcast que j'ai toujours pas mis en ligne. Quand on a fait ça, donc il y a un podcast. Il y a aussi un podcast sur Wonder Woman avec Juliette. Un jour, ils sortiront tous de la cave. La cave étant mon ordinateur. Bon. En tout cas, non mais Zendaya, elle est merveilleuse. Et dans Thor 3, ce grand moment de Kate Blanchett qui dit à Thor, à ton avis, d'où vient tout cet or?
Moi, le grand moment pour moi, c'est quand elle lui fait, oui, je suis la déesse de la guerre ou chef de l'armée.
Oui, je suis l'héritière du trône. Bon, apparemment, vous ne savez pas qui je suis, donc je suis l'héritière du trône, déesse de la guerre, machin.
De la mort.
Déesse de la mort.
Et le mec qui fait... Ouais, c'est ça, peu importe qui tu es, on va te déchirer en gros. Et elle fait, ah ok, elle met son truc, elle les déchire tous. C'est le mec à la fin qui essaye tant bien que mal, tu sais, genre en mode, mais ce n'est pas possible, je peux pas être battu, genre par une femme limite, tu vois, à la limite de te sortir ça. Donc le mec il essaye de se relever et là, t'en as pas marre, boum.
Non, mais c'est vrai que le côté, j'aime beaucoup le côté, c'est whoever am I am, vous n'avez pas entendu ce que je viens de vous dire.
Elle est juste arrivée en défonçant.
Il y a un sous-courant, effectivement.
Non, mais en plus, genre, les mecs, ils n'ont pas peur, mais elle est juste arrivée en défonçant trois des gardiens de la porte avec l'épée, t'es juste là. Ok. Genre, ça te fait pas peur. Elle est arrivée, pas d'armes, tu vois pas d'armes sur elle physique, elle les a défoncés, ils sont morts, les mecs, et tu te dis pas, genre, elle est peut-être potentiellement dangereuse. tu te dis pas, genre.
Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un courant sous-tendu sur tous ces films de vraie réorganisation de la relation au genre, de la relation aux questions raciales, de la relation à l'histoire, notamment l'histoire blanche occidentale. Et je suis trop, trop heureuse. Et bien sûr, il y a tout ce courant dans Star Wars 8 avec toute cette idée où on voit beaucoup de comportements classiques de héros masculins du cinéma. Sauf qu'en face, ils ont une nana. Que ce soit Poe, que ce soit Luke, Luke. C'est Logan. Dans Logan, tous les mecs, les personnages, ils se comportent comme Luke. Sauf que là, la différence, c'est que t'as Rey qui fait « Arrête de dire des conneries, Luke, on a besoin. On peut continuer à se battre. » Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que j'ai reproché à Logan, le film, c'était ça. C'est que c'était juste ce côté « Ah, mais non, tout est pourri, on ne peut rien faire. Je peux juste mourir. » Bon, techniquement, c'est ce que... Spoiler alert, ce que fait Luke aussi. Mais quelque part, tu vois, ce que j'étais agréable, rafraîchissant dans le même film, d'avoir d'autres voix, qui sont toutes des voix féminines, qui sont des voix pour dire non, mais il faut continuer à se battre, il faut trouver une solution, il faut pousser, il faut essayer de connecter, essayer de communiquer, essayer de réconcilier. Et putain, ça fait plaisir que ces films-là se posent la question, quoi.
Fin du chapitre 1. Pour rester digeste, on va publier chaque chapitre séparément. Alors on se retrouve très vite pour le chapitre 2 sur les séries. The emptiness just flies away. You console all